Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Je continue l'évangile de Marc. On avance beaucoup et on arrive là, pour situer le contexte, on est dans la semaine sainte, donc dernier jour de Jésus avant la crucifixion. Jésus vient d'enseigner longuement dans le temple. C'est pas anodin, il a enseigné longuement dans le temple, répondant aux questions de ses détracteurs, les religieux, qui voulaient le confondre. Qui voulait le piéger, sans bien sûr jamais réussir. Jésus a été dans le temple pendant tout ce temps. Maintenant, voilà qu'il sort du temple. C'est là où on reprend notre lecture. En Matthieu, Marc, chapitre 13, je prendrai les versets 1 au verset 13. Un passage qui aborde le sujet, justement, de la fin des temps. Donc là, on est déjà dans une autre étape. Et le texte de Morel ce matin était en rapport aussi avec ce sujet-là. Alors je vais lire et avant ça je vais prier. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as laissé ta parole et rends-nous attentifs, Seigneur, à ce que tu nous dis, Seigneur. Merci parce que tu es bon, tu es fidèle. Seigneur, donne-nous de faire notre part. Toi, tu fais la tienne, tu as toujours fait la tienne, Seigneur. Et merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Tu nous parles, dispose nos cœurs à t'écouter et à faire ta volonté. Merci. Je te remets notre Église. Merci de la bénir, Seigneur, et de la faire avancer, de nous faire avancer avec toi dans ton plan, Seigneur. Merci, ouvre-nous le cœur et l'intelligence à ta parole, et je me repose sur toi pour ce message, en Jésus-Christ. Amen. Marc 13, donc, verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ?» Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui posèrent en privé cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses? Jésus se mit à leur dire. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront « c'est moi ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines, ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Jusqu'ici, parole de Dieu. J'ai intitulé mon message « Averti ». Averti au pluriel. Parce que nous sommes avertis. Dans le texte qu'a lu Morel ce matin, effectivement, dans 2 Pierre 3, 17, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. » Et effectivement, nous sommes avertis. Alors, pourquoi nous sommes avertis? Parce que Jésus avertit son Église des douleurs de l'enfantement qui vont précéder son retour. C'est ma vérité centrale, la vérité qui ressort de ce texte et de ce qui suit aussi. Jésus avertit son Église des douleurs de l'enfantement qui vont précéder son retour. Et il nous avertit pour 3 raisons. La première, c'est pour ne pas nous laisser séduire. La deuxième, ça sera pour tenir ferme. Et la troisième, c'est pour persévérer avec l'aide de Dieu. Ce sera mes 3 points, donc, pour ne pas nous laisser séduire, pour tenir ferme, pour persévérer avec l'aide de Dieu. Hier, vous n'avez peut-être pas raté ça, c'était l'inauguration de la rentrée de la cathédrale, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Beaucoup de chefs d'État étaient présents lors de cette inauguration. Un grand édifice, donc, qui fait la fierté de la France pour beaucoup. Ici, il est question d'un autre édifice, du temple de Jérusalem. Les disciples de Jésus étaient en admiration devant ce temple. Certaines pierres mesuraient plus de 10 mètres de long. C'était impressionnant. Mais ça n'a pas impressionné le Seigneur. Le Seigneur, lui, il regarde non pas à l'extérieur, mais il regarde à l'intérieur. Et à l'intérieur du temple, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait la corruption, il y avait le trafic, il y avait les marchands du temple. Le temple qui devait être avant tout une maison de prière, nous dit Jésus. Voir chapitre 11, qu'on a vu. Alors pourquoi s'extasier devant quelque chose qui va disparaître de toute manière ? Jésus annonce sans ménagement que le temple, ce temple sera détruit. Jusqu'à la dernière pierre. Et imaginez la surprise des auditeurs qui étaient là avec Jésus. Le temple, la présence même de Dieu qui va être détruite. Alors les proches de Jésus, ses disciples les plus proches, donc Pierre, Jacques et Jean, et André aussi, l'interrogent avec deux questions. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses? Première question, quand cela arrivera-t-il? Jésus ne va pas répondre à cette question. Ce n'est pas le point crucial de savoir quand ça arrivera, ce n'est pas le pourquoi de ces textes-là. Ce n'est pas de fixer une date, beaucoup ont essayé de le faire sans succès. Et ils ont montré que c'était des faux prophètes. Imaginez si Jésus avait annoncé une date, qu'est-ce qui serait passé? Il n'y aurait pas d'église aujourd'hui. On ne serait pas là. Ce n'est pas pour aujourd'hui, donc c'est pour un autre jour. Non, Jésus n'a pas annoncé quand. Mais par contre, il a répondu à la deuxième question. Quel sera le signe annonçant la fin de toute chose? La fin du monde, la fin des temps. Et il va annoncer à l'avance les événements à venir, depuis la destruction du temple de Jérusalem jusqu'à son retour. Il y a un long laps de temps qui s'écoule entre les deux. La destruction du temple de Jérusalem, elle a bien eu lieu en l'an 70, après Jésus, lorsque les armées romaines ont assiégé Jérusalem. Le temple a été détruit. Et ça a été un temps très difficile pour les Juifs. Alors, beaucoup interprètent aussi les textes comme est-ce qu'un autre temple va être reconstruit d'ici le retour de Christ? Est-ce qu'il sera détruit? On ne peut pas répondre avec certitude à cette question. Chacun peut se faire sa propre opinion en lisant les textes. Beaucoup de chrétiens qui ont vécu vécu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, la première de 14-18, la deuxième de 39-45, notamment la deuxième de 39-45, ont cru que l'antéchrist c'était Hitler. Et on aurait pu le penser, guerre mondiale, avec quelqu'un de malfaisant comme ça. Or, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas encore l'antéchrist dont Jésus parle et qui est à venir, qui sera encore pire. Alors, c'est clair, nous vivons bien dans une crise qui est mondiale à beaucoup de points de vue. Écologique, les guerres, les tremblements de terre. Des nations se sont dressées contre des nations. On se remémore les deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45, au XXe siècle. Plus près de nous, il y a eu des tremblements de terre, des famines dévastatrices. Et Jésus nous dit que ce ne sera pas encore la fin. Ça sera le commencement de la fin. Alors, je crois, en tout cas, que nous sommes dans cette période. Le commencement de la fin a déjà commencé. Nous sommes dans cette période. Et Jésus appelle ce temps le commencement des douleurs qui vont aller en s'accentuant. Bien sûr, il pense à quoi? À une femme qui va accoucher. Alors, pour vous, maman, qui êtes maman, vous savez ce que c'est, hein? Peut-être un temps d'angoisse avant, jusqu'à une joie sans pareil, la joie de donner naissance à un petit bout, à une vie, à quelqu'un qui vient dans ce monde. Eh bien, Jésus, il fait le parallèle avec les douleurs de l'enfantement, les tribulations avec les douleurs de l'enfantement, qui va se terminer avec une joie sans pareil qui sera celle du retour de Christ, celle de son retour. Une joie sans pareil. Le retour de Jésus aura bien lieu, n'en doutons pas, comme on l'a lu ce matin. Certains pensent que, comme on l'a lu dans Pierre ce matin, certains pensent que c'est pas la peine d'attendre, ça fait déjà trop longtemps. Non, soyons-en certains, le retour de Christ aura bien lieu. Et ça doit être et ça doit rester notre espérance. Alors ces prophéties que nous donne Jésus, elles sont là. Elles sont là pour nous dire ce qui va se passer, et on ne peut pas aller au-delà, effectivement, de ce qui est écrit. Et elles sont là, pas seulement pour prédire l'avenir, mais elles sont là pour nous aider à interpréter le présent, pour nous aider à reconnaître en quel temps nous vivons, pour nous situer, Pour autant, nous ne pouvons pas dire que tous ces signes se sont déjà produits. Avec certitude, nous ne pouvons pas le dire. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Chaque jour, des gens entendent parler de Jésus. Est-ce qu'elle a été prêchée à toutes les nations? Je ne pense pas que le travail est terminé. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Autre signe qui ne s'est pas encore accompli. D'autres signes se sont accomplis. Mais voilà, Jésus répète dans ce passage et aussi dans ce qui suit. On ne l'a pas lu aujourd'hui. Jésus répète à plusieurs reprises dans ce passage les exhortations « Prenez garde ». Verset 5, verset 9, verset 30, 23, verset 33. « Veillez », verset 33, verset 35, verset 37. Et aussi « Ne soyez pas troublés », verset 7. Alors ces textes sont avant tout, pourquoi ? Pour nous avertir. Pour nous avertir, pour que nous soyons vigilants, qu'on ne s'endorme pas, et pour inciter les chrétiens de toute époque, depuis les débuts de l'Église, à tenir ferme et à veiller en attendant le retour de notre Seigneur, à toute époque. Du temps de l'apôtre Paul, croyait que le Seigneur allait revenir de façon imminente. Ce n'était pas encore le cas. Aujourd'hui, nous l'attendons encore. Alors, le Seigneur va donner des signes de la fin des temps. Et le premier signe qu'il va donner, que Jésus va donner à ses disciples et donc à nous, son Église, c'est quoi ? C'est une mise en garde contre les imposteurs. Les imposteurs qui vont se faire passer pour Jésus. Mais pas seulement des personnes. Ça inclut aussi des courants de pensée et des organisations sectaires qui sont présentées comme étant chrétiennes, mais qui ne le sont pas. Qui sont présentées comme venant du Christ, mais ce n'est pas le cas. Bref, un faux christianisme. Alors mon premier point, nous sommes avertis pour ne pas nous laisser séduire par ce faux christianisme. Parce que le danger, il est réel pour nous les chrétiens, l'Église, les élus, de nous laisser séduire par des gens qui vous promettent paix, sécurité, voire de se faire passer pour le Christ. Le Christ qui lui apportera la vraie paix, la vraie sécurité. Et le danger de se laisser séduire, il est d'autant plus grand en temps de crise mondiale. Et nous sommes dans un temps de crise mondiale. Alors, la mise en garde de Jésus nous amène à nous interroger sur quel temps nous vivons aujourd'hui, au XXIe siècle. Et cette question que nous posons, nos prédécesseurs, l'Église qui nous a précédés, ils ont dû aussi se poser cette question. Quel temps vivait-il à cette époque-là? Et ceux qui nous ont précédés, nos frères et sœurs qui ont vécu avant nous, par exemple il y a 200 ans, comment est-ce qu'ils verraient l'Église aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils réagiraient en voyant l'Église aujourd'hui, comparé à l'Église d'il y a 200 ans? Je crois qu'il y a quand même une différence. Il y a une différence dans notre façon de prêcher Christ, aujourd'hui, et celle de nos prédécesseurs. La principale, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup moins, voire pas du tout, mais de l'enfer. Nous en parlons beaucoup moins que eux, alors que c'est une réalité. C'est ce que risquent les incroyables. Quand on évangélise, souvent, on peut utiliser un verset qui nous arrange, qui ne vont pas trop heurter la personne, et on laisse tomber la deuxième partie du verset qui est gênante. Par exemple, Jean 3, 18, la première partie, je vous le lis, Jean 3, 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé. » On peut s'arrêter là, mais on peut omettre. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de ce verset? Je continue la suite du verset. « Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Est-ce qu'on va jusqu'à lire le verset dans sa totalité? Ou est-ce qu'on s'arrête à ce qui caresse dans le sens du poil? Cette attitude de séduction, elle peut aussi se retrouver dans l'Église. L'apôtre Paul, en 2 Timothée, il l'avait prédit. Je lis 2 Timothée 4, 3. Voici ce qu'il dit. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. » Et verset 4, « Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. » Ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que même Israël a eu cette tendance. Dans l'Ancien Testament, du temps d'Ésaïe, sous l'Ancienne Alliance, voici ce que nous disons dans Ésaïe chapitre 30, verset 10. Je vais lire dans la version du Semeur, parce que je trouve qu'elle est vraiment parlante et elle est fidèle aussi. Voici ce que disait Israël en Ésaïe 30, verset 10. Cessez de nous servir des révélations vraies. Annoncez-nous des choses agréables, que vos révélations nous bercent d'illusions. Voici ce qu'il demandait. Des choses. Vous voulez être caressé dans le sens du poil. C'était un refus manifeste d'écouter Dieu. Un refus qui a amené le peuple à se tourner vers quoi ? Vers les fables. Vers des fausses prophéties qui les caressaient dans le sens du poil. Alors évidemment, j'aime pas recevoir des reproches. Personne n'aime ça. Par contre, on aime recevoir des éloges. C'est tout à fait humain. On se sent mieux quand on n'a rien à se reprocher, n'est-ce pas ? Qui ne préfère pas les compliments aux critiques ? Vous connaissez, vous vous rappelez peut-être la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, oui. J'ai lu ça sur une méditation dans Sa Parole pour aujourd'hui et vraiment, je crois qu'elle est toujours d'actualité, cette fable, cette mention. Vous vous rappelez donc, est-ce que parfois on ne ressemble pas au corbeau ? Au corbeau de la fable de La Fontaine, ce corbeau qui se laisse manipuler par quoi ? Par les flatteries du renard. Alors, il y avait quoi dans le bec ? Il y avait un fromage. Il se laisse tellement flatter que, eh bien, il va laisser tomber son fromage, il va laisser tomber sa nourriture, tellement les flatteries lui ont plu. Dès le moment où nous prenons plaisir à écouter seulement ce qui nous arrange, ce qui va dans notre sens, au lieu d'accepter les remises en question de la part du Seigneur, eh bien, nous lâchons notre nourriture, comme le corbeau a lâché son fromage. Nous lâchons notre nourriture et la bénédiction qui va avec, à force de trop prêter attention aux flatteries. Pourquoi ? Parce que l'ennemi veut nous voler ses bénédictions. Alors il use de flatterie parfois. Alors, question qu'on peut tous se poser. Notre orgueil personnel est-il plus important que de reconnaître nos fautes et d'accepter les reproches de l'Éternel ? Lorsque Dieu nous fait des reproches, nous, son Église, c'est qu'il nous aime. Alors quand est-ce que nous résisterons aux faux prophètes, aux faux Christ ? Lorsque nous recevrons la parole de Dieu et la vérité sur, non seulement sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Même si elle nous dérange, même si elle nous bouscule, et lorsque nous y obéirons. Et de cette manière-là, eh bien, nous aurons les yeux ouverts. De cette manière, nous serons continuellement assurés d'être dans la volonté de Dieu, d'être en communion avec lui. Et nous en aurons besoin, frères et sœurs, pour faire face aux difficultés, aux persécutions qui sont devant. De cette manière, en étant honnête avec nous-mêmes, avec le Seigneur, de toute façon, on ne peut pas le tromper, eh bien, nous serons dans la bonne direction pour notre vie présente et la vie future. L'Église s'est parfois laissée pénétrer par un courant de pensée humaniste qui s'appelle l'estime de soi. L'estime de soi qui a tendance à remplacer la relation d'aide biblique, c'est-à-dire la relation d'aide, aider une personne dans ses difficultés uniquement à partir de la Bible. Et aujourd'hui, de plus en plus, la psychologie moderne a pénétré les églises avec des techniques d'introspection qui sont parfois très compliquées, alors que l'évangile est simple. C'est un courant de pensée qui s'appelle l'estime de soi, c'est un courant de pensée humaniste pour rendre l'évangile plus attractif en mettant de côté la crainte de Dieu. Si vous arrivez de vous sentir coupable, et je crois que ça nous arrive à tous, eh bien les faux Christ, ce sont ceux qui vont vous dire « Mais vous êtes quelqu'un de bien !» Mais devant Dieu, non seulement on peut se sentir coupable, mais nous sommes tous coupables. Parce que nous sommes tous atteints de la même maladie qui s'appelle le péché. Les faux Christ vous disent de vous aimer vous-même. En s'appuyant sur quoi ? Sur le second commandement. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais ils omettent le premier commandement. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Ton esprit. Ils omettent le premier commandement, que veulent-ils ? Ils veulent que vous vous aimiez vous-même avant d'aimer Dieu. Et c'est ça le problème qu'on peut être tenté d'avoir. Bien sûr que Dieu nous demande de nous aimer, mais avant, il nous demande de l'aimer lui, pour nous éviter de tomber dans cet écueil. Ils veulent que vous vous aimiez vous-même avant d'aimer Dieu et ainsi faire de vous votre propre idole. Une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu. Alors oui, certaines s'attachent à de vaines idoles pour pour régler leurs problèmes au lieu de s'attacher à Christ, à l'Évangile. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'attache à une idole, au lieu de s'attacher à Christ, au lieu de s'attacher à l'Évangile? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se prive de sa grâce. C'est comme si on disait à Jésus, on n'a pas besoin de lui. On se prive de sa grâce, on se prive de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et attention, parce que la psychologie bonne moderne peut devenir ce genre d'idole. C'est très tendance aujourd'hui de dire d'aller voir un psy, même pour les enfants. La psychologie moderne peut devenir ce genre d'idole, cette psychologie qui prône l'estime de soi. Une idole qui prône l'estime de soi, une préoccupation narcissique de soi-même. Un faux christianisme consisterait alors à quoi faire ? À victimiser les coupables et à nier leurs péchés et leurs responsabilités dans leurs actes. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans le monde. Attention à ce que ça ne se passe pas dans l'Église. Dans le monde, les coupables, on dit, ils ne sont pas responsables, ils sont malades. Mais on ne parle pas du péché. Or, la Bible met le doigt sur le péché. C'est très séduisant. C'est très séduisant. Qui n'aime pas être caressé dans le sens du poil? Mais agir ainsi, c'est clairement agir contre Dieu. Ça serait aggraver notre cas. Non seulement en niant notre péché qu'on ne veut pas voir, mais en se croyant des gens bien, avec une haute estime de soi, tout pécheur que nous sommes. C'est très séduisant. Et en étant leur propre idole, eh bien, ils se privent de quoi ? De la miséricorde de Dieu. Dieu qui seul peut enlever leur culpabilité, notre culpabilité. Et Jonas en est un bon exemple. Jonas l'a confessé. Jonas était un véritable prophète, et tout véritable prophète qu'il était, il avait une idole. C'était celle de prétendre savoir mieux que Dieu qu'est-ce qu'il fallait pour les Ninivites. Jonas voulait détruire les Ninivites, Dieu voulait leur faire une miséricorde. Et voilà ce qu'il dit dans le ventre du gros poisson, juste avant qu'il sorte. Verset 9, 2 verset 9. Ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses abandonnent celui qui leur fait miséricorde. Et ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses abandonnent celui qui leur fait miséricorde. Dans la version Semeur, je vous dis le même verset dans la version Semeur de Jonas 2, 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. En s'accrochant à ces vaines idoles, Jonas, eh bien, il s'était éloigné de la grâce de Dieu. Et il l'a reconnu, il l'a confessé, il s'en est repenti. Il avait compris. Ces idoles qu'on se fait à soi-même, qui sont des mensonges. Alors, quel remède? Eh bien, le remède, il est dans le verset suivant. Chapitre 2, verset 10 du livre de Jonas. Le remède, c'est que, eh bien, nous avons besoin de reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur extérieur à nous-mêmes. Ce que nous dit le verset 10, le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Donc prenez garde au faux Christ. Et après l'avertissement de prendre garde au faux Christ, et donc à un faux christianisme, vient l'avertissement tout autant personnel de prendre garde aux chutes face à l'opposition qui pourra se présenter. De prendre garde aux chutes face à l'opposition pour que nous tenions ferme. Deuxième exhortation, mon deuxième point, nous sommes avertis pour tenir ferme face à l'opposition. L'Église est appelée à souffrir depuis qu'elle existe. Pourquoi ? Parce que l'Église, elle va à l'encontre des valeurs du monde, elle va à contre-courant des valeurs du monde. Elle est appelée, en tout cas, et encore plus aujourd'hui, où le monde a des valeurs qui sont contre Dieu. Trop de complaisance et de prospérité avec le monde a toujours affaibli l'Église. Par contre, et paradoxalement, l'Église n'a jamais été aussi forte que dans les persécutions. Les églises clandestines en savent quelque chose, si vous vous rappelez ce qu'on a évoqué quand on a évoqué l'Église persécutée. Alors évidemment, on peut se dire, oui, mais la persécution s'éloigne chez nous. Mais vendredi, j'ai lu un article proposé par France Info. J'ai lu un article, si vous avez entendu parler de la Mivilude. La Mivilude, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Eh bien, leur rapport, c'est qu'entre 2021 et 2024, près de la moitié des signalements pour risque de dérives sectaires, des mouvements religieux, concernent des églises évangéliques installées en France. La moitié. Alors, nous sommes dans le viseur. Alors, dans l'article, c'était un article... Alors, très clairement, ils ont dit que notre mode de vie, nous inspirons la Bible, c'est notre manuel de vie. Nous prenons la Bible pour savoir comment nous conduire dans la vie. Ils ne disaient pas ça sous forme de critique. Voilà. Et tant mieux s'ils l'ont dit. Ça doit être la vérité. Notre manuel de vie. Par contre, là où ils se sont pas privés, c'est de, sur quelques cas, de pointer la mauvaise utilisation de l'argent en disant, hors de tout contexte, que la dîme dont il est question dans la Bible, eh bien, ça, parfois certains utilisent mal l'argent et donc le problème vient d'une mauvaise compréhension de la dîme et d'une mauvaise utilisation de l'argent. L'argent. Et quelques cas, effectivement, ne sont pas des exemples à suivre. Donc attention, la moitié des églises évangéliques a été identifiée comme étant sectaire par rapport à leurs critères, qui bien sûr ne sont pas bibliques. Aujourd'hui, défendre une position tranchée, si vous avez des convictions, c'est mal vu. C'est mal vu dans notre société. Notre société qui veut gommer ses racines chrétiennes. Notre société qui défend l'idée que chacun peut avoir sa vérité. Donc il faut de la tolérance. Par exemple, on veut nous faire accepter l'idée d'une éducation sexuelle à l'école dès l'école maternelle. Pour faire croire à l'enfant le mensonge qu'il peut choisir lui-même s'il veut être comme un garçon ou comme une fille. Pire que ça, s'il veut être un garçon ou une fille. En gommant les différences, en lui faisant croire qu'il n'y a pas de différence. Alors que faire si vous n'êtes pas d'accord? Il y a des parents qui s'inquiètent à juste titre devant ces projets de loi qui, il y a effectivement, est-ce que c'est toujours d'actualité avec le gouvernement qui a été dissous? En tout cas, dès 2025, il devait, ou je ne sais pas si ça tient encore, ce projet de loi, enfin ce n'est pas un projet de loi, c'est un décret qui visait à justement amener la sexualité de la maternelle jusqu'au lycée avec différents modes à suivre. Alors, renseignez-vous. Que faire si vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'on va clocher des deux côtés? Un de nos plus grands problèmes, c'est la bataille quotidienne entre la chair et l'esprit. Paul affirme en Galates 5:17, donc il le dit pour nous, hein, l'Église. La chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Un faux christianisme laissera la place au compromis pour nous faire clocher des deux côtés. Et ça va à l'encontre de ce qu'enseigne la Bible. La chair poussera toujours à suivre le mouvement ou à se contenter du statu quo. Pas de décision. Pour plaire à tout le monde. À moins que l'esprit régénéré ne refuse, en prenant clairement position, en prenant clairement une décision. Décider, prendre position et le proclamer. Avec autorité, le déclarer avec autorité. Josué en est un bon exemple. Craignant que le peuple de Dieu ne se laisse entraîner par le style de vie des nations voisines, il leur déclare au peuple de Dieu, en Josué 24:15, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24:15. Josué a pris position, il l'a déclaré. Résultat, parce que Josué a pris fermement position et proclamé sa décision, verset 24, nous lisons, le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Le peuple aussi a pris position. Dans quel domaine de notre vie avons-nous besoin de prendre position et de le proclamer comme Josué? Alors bien sûr, ça pourra susciter des oppositions. On pourra se faire accuser de manquer d'amour, de manquer d'humilité. On pourra se faire accuser même d'orgueil de par nos prises de position. Ça pourra aussi susciter des réactions violentes. Ça pourra même, aboutir devant les tribunaux. Jésus nous prévient. Devant des tribunaux civils et religieux, comme il en est question dans ce passage. Les fidèles au Seigneur, durement éprouvés, seront trahis, même par leurs proches. Les persécutions du verset 9 s'appliquent aux chrétiens de toute époque. Mais ici, elles semblent s'adresser plus particulièrement à des juifs devenus chrétiens qui porteront l'évangile au monde avant le retour du Christ. On peut le voir comme ça. Parce qu'il est question de synagogues qui seront battues de verges dans les synagogues, même si ces persécutions ont concerné l'Église depuis qu'elle existe. Alors ce sont des souffrances, mais il n'y a jamais de souffrance dans le peuple de Dieu sans un but. Quel est le but de ces souffrances, d'être amené devant les tribunaux? Clairement, c'est d'annoncer l'Évangile publiquement, devant les hauts placés des nations, devant les rois, les présidents, leur servir de témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils le font. Verset 10, que dit Jésus? Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Donc ne craignons pas, Dieu est aux commandes. Mon troisième point, pourquoi Jésus nous avertit-il de ces choses? Pour que nous persévérions avec son aide, pour persévérer avec l'aide de Dieu. Il faudra beaucoup de courage pour rester fidèle, mais nous ne sommes pas seuls. Ne comptons pas sur nos propres forces, ce n'est pas la peine. Mais Dieu nous promet son aide. Comment? Par son Saint-Esprit. Pour que nous n'ayons pas besoin de préparer une plaidoirie. D'ailleurs, il n'y aura peut-être même pas le temps d'en préparer une. Et là, Jésus nous met à l'aise de ne pas nous inquiéter. C'est le Saint-Esprit qui parlera. Il y a des exemples où le Saint-Esprit a transformé des personnes, comme c'était le cas de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a été rempli par le Saint-Esprit lorsqu'il a dû s'expliquer devant le chef religieux. Dans Actes chapitre 4, verset 8, je vous donne la référence. Le Saint-Esprit, tout croyant, l'a reçu en lui. Nous l'avons reçu. Lorsque nous avons reçu Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit de demeurer en lui. Et lui demeurera en nous. Ça veut dire une vie d'obéissance. Assistante du Saint-Esprit qui nous est promise. Jésus a dit au verset 13, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Accepterons-nous d'être haïs? Ou préférerons-nous tomber dans la séduction et plaire au plus grand nombre? C'est un choix, c'est une question qu'on doit tous se poser. Est-ce que nous accepterons? Tout le monde veut être aimé, tout le monde, mais être haï, personne ne veut ça. Pourtant, Jésus nous avertit. Oui, c'est le prix à payer, si on veut rester fidèle à Jésus. Mais c'est possible. Pourquoi? Parce que Jésus, la bonne nouvelle, c'est que lui-même, il a payé ce prix pour nous. Jésus a accepté d'être haï, lui le plus aimable qui soit, plus juste. Lui qui est amour, il a accepté d'être haï et de subir les maltraitances qui sont dans le verset 9. Il les a toutes subies, regardez. Il les a subies pour nous, avant nous, pour que nous puissions les supporter. On vous livrera. Lui-même, Jésus, a été trahi par Judas. Vous serez battus de verges. Lui-même a subi le fouet et les coups. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois. Lui-même a comparu devant le gouverneur Ponce Pilate. Et devant le tribunal religieux juif. Il a accepté d'être haï jusqu'à mourir sur la croix pour nous, payant ainsi le prix de nos fautes, et pour pouvoir vivre, non seulement avec nous, mais en nous. Il est ressuscité, après les douleurs est venue la joie. Et pour nous, ses enfants, après les douleurs de la persécution, grande ou petite, viendra la joie de l'enfantement lorsqu'il reviendra. Voilà notre raison de persévérer. Il va revenir. C'est la certitude de son retour qui nous fera l'attendre. Alors comment persévérer? Eh bien, on peut persévérer bien sûr déjà dans la prière. Priez pour qui? Pour l'Église persécutée. Et aussi pour les persécuteurs. Il ne faut pas les oublier eux aussi. Saul a été un exemple de persécuteur des chrétiens. Mais il a capitulé devant Christ quand il a rencontré Jésus face à face. Jésus qui a été le plus fort et qui a fait devenir Saul l'apôtre Paul. Il est devenu l'apôtre Paul. Voilà un puissant encouragement à prier pour les persécuteurs. Des chrétiens, les persécuteurs des chrétiens, des djihadistes de l'Afrique subsaharienne, aux talibans d'Afghanistan, en passant par la Corée du Nord, entre autres. Vos prières sont entendues, ils les attendent. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 13. C'est la caractéristique de la foi de ceux qui sont sauvés de persévérer. Si nous nous disons chrétiens, bien, on a envie de persévérer. Mais attention, ce n'est pas notre persévérance qui nous sauve. La persévérance n'est pas un mérite. Nous sommes sauvés par grâce, seulement par la foi dans le sacrifice de Jésus. La persévérance n'est pas méritoire. Il faut plutôt comprendre le mot sauver comme une délivrance, pendant ou après la tribulation. Et la mort physique a été une délivrance pour certains, pour les martyrs. Le salut, c'est quelque chose qui est déjà et pas encore complètement accompli. Il est déjà acquis par l'œuvre de Jésus. Et regardez ce que Hébreux 9, verset 28 nous dit. De même aussi, le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Le salut sera pleinement vécu, accompli lors du retour de Christ. Alors, eh bien, l'exhortation, c'est de demeurer ferme. Et pour nous, messieurs, pour nous les hommes, l'apôtre Paul a une exhortation qui nous est directement adressée. 1 Corinthiens 16, verset 13. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Nous tiendrons ferme en prenant position. Si nous croyons que toute la Bible est parole de Dieu, pas seulement ce qui nous arrange, et que toute la Bible contient tout ce dont nous avons besoin pour vivre les bons et les mauvais jours, sans laisser la psychologie moderne lui faire de l'ombre, prendre sa place. Nous demeurerons fermes en restant attachés à la vérité. La vérité que nous sommes tous coupables. Et en confessant et en proclamant que Jésus, le Fils de Dieu, a porté notre culpabilité, notre punition sur la croix, et qu'il est ressuscité. Le salut vient de l'Éternel. Même si nous traversons des turbulences, croyons que Jésus est assez puissant pour nous garder jusqu'au bout, pour nous aider à persévérer, parce qu'il est passé par la tribulation avant. Avant tous ceux qui ont été persécutés ou qui le sont, ou qui le seront. Amen, je vais prier. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous avertis, Seigneur. Ta parole, elle est claire. Et Seigneur, bien sûr, parfois il y a des passages qu'on n'aime pas lire. Mais Seigneur, tu nous les donnes parce que tu nous aimes, parce que tu veux nous équiper. Tu veux nous équiper pour tenir ferme, pour persévérer, Seigneur, dans le mauvais jour. Merci parce que, oui, il y a des joies, Seigneur, et la joie, c'est toi qui nous la donnes, même dans les difficultés. Il y a des bons et des mauvais jours. Et tu nous dis qu'il y en aura, Seigneur. Et tu nous dis de tenir ferme dans les mauvais jours. Alors, Seigneur, merci parce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Tu as commencé par nous donner ton Fils, que tu nous as donné sans que nous ayons un quelconque mérite. Et avec ton Fils, tu nous as donné le Saint-Esprit. Seigneur, que nous nous appuyons sur toi, que tu nous aides à regarder plus loin. Et Seigneur, que ton Église, nous soyons, tu nous fasses cette grâce de te rester fidèle, Seigneur. Oui, jusqu'au bout. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque ça n'a pas été le cas. Et que, Seigneur, nous sachions, Seigneur, vraiment, avec ton aide, de prendre position, Seigneur, et être un témoignage devant ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup sont déboussolés dans notre monde, ne sachant plus vers qui se tourner, Seigneur. Mais tu es le seul chemin. Chacun individuellement a à prendre une décision. Alors veuille, Seigneur, te révéler à tous ceux, voilà, tous ceux qui sont perdus, qui ne te connaissent pas, tous ceux qui sont loin. Et que nous, ton Église, ils te voient en nous, Seigneur. Et que nous ayons la bonne parole. Parole qui vraiment sera pertinente au bon moment, aux bonnes personnes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.